Je crois que je peux remercier de votre part à tous Jacques Jaubert, Sophie Verheyden et Michel Soulier d'avoir travaillé dans ces conditions. Vous êtes maintenant conscient que la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin ne manque pas de préhistoriens, mais elle manque d'ingénieurs informatiques. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Mais il est vrai aussi que nous essayons les plâtres d'un nouveau dispositif de vidéoprojection qui a été installé il y a seulement un mois. Voilà, on a quand même un quart d'heure pour des questions, pas beaucoup malheureusement par rapport à ce que, au nombre qu'on est. Je vais donner la parole à... Ici et là.
Merci déjà pour cette conférence très, très intéressante. Vous avez parlé de tronçonnage. Et est-ce qu'il y a des hypothèses sur la façon dont ils se sont pris pour tronçonner avec quel outil ou...
Donc ils sont bien tronçonnés, ils les ont cassés puisqu'il y a une dimension particulière. Et ça ne se casse pas comme ça, même s'ils étaient forts. Et donc, on s'attendait à trouver un outil quelque part qu'on n'a pas encore trouvé. Donc, alors, on s'est posé la question en trouvant des galettes quartz dans les boulies, qui avaient l'air posées sur les boulies d'entrée. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'éclat dessus? Il y a pas... Sur les stalagmites, on ne voit pas vraiment l'éclat, puisqu'on vous a dit, hein, elles sont très argileuses, puis il y a beaucoup de calcite dessus. Donc, ce n'est pas si évident que ça à voir. Donc, voilà, on n'a pas la réponse.
Alors, il y a un collègue spéléologue qui nous a indiqué que le meilleur moyen pour casser les... En fait, les stalagmites, soit elles poussent sur de l'argile, et à ce moment-là, elles se basculent assez facilement. Elles sont sur un seul meuble, on les bascule, et après, on peut les tronçonner. Celles qui sont sur de la calcite, elles sont comme cimentées à la calcite, et ça, c'est beaucoup plus difficile à casser. Et il y a un collègue qui nous a dit qu'en frappant très fort juste à côté, ça crée une espèce d'onde qui cisaillait la base de la calcite. On n'a pas encore essayé, parce qu'il faut trouver une grotte... avec des stalagmites où on pourrait faire l'expérimentation. Bon, s'il nous l'a dit, c'est qu'il a, lui-même a dû le faire ou le voir faire. Donc ça, c'est une première information. Et comme l'a dit Sophie, sur le reste des éléments, on a essayé de s'arracher les yeux pour trouver les impacts. Les impacts de taille, ça se voit très bien sur du silex, un peu moins bien sur du quartz et pas du tout sur la calcite. Donc on cherche quelque chose qui est pratiquement... très très difficile à trouver, et donc on a l'intention quand même de procéder à des expérimentations à haute résolution pour voir s'il y aurait quelque chose et ensuite de revenir sur le terrain et de voir si on trouve ce quelque chose. Projet.
Ouais, bonsoir. Il se trouve que j'habite à quelques centaines de mètres du site et je passe tous les jours en rentrant de mon travail devant la carrière de la Farge. Et je voulais savoir, c'est un peu polémique comme question, mais il y a des tirs d'explosifs, je les entends de chez moi, du coup, plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce que depuis qu'on a découvert cette grotte, on a été voir l'entreprise Lafarge pour leur dire, attention, parce que comme on sait, là, je vais être encore plus polémique, que M. Lafarge fait des choses avec la Syrie, enfin, il ne s'embarrasse pas de ce genre de choses. Je me dis, ceux qui connaissent cette carrière et qui ont des relocations comme moi d'y rentrer, c'est gigantesque, quoi. La moitié de la colline a déjà été enlevée. Je me dis, si à l'occasion d'un tir, ils découvrent quelque chose, est-ce qu'ils ne vont pas s'empresser de ne pas le dire?
Alors, nous nous sommes aperçus de la présence de la carrière en 1992, lors de nos premiers relevés. Nous étions sur le site et nous étions penchés sur nos feuilles de cahier. Et on entendait régulièrement tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'est? Finalement, nous sommes sortis de la cavité pour visualiser ce bruit. Et on s'est rendu compte que c'était un brise-roche, un bout de pelle mécanique, qui était effectivement dans la carrière. À cette époque-là, la carrière était beaucoup plus petite et l'extraction se positionnait pratiquement au-dessus de notre zone de travail. Et donc la roche permettant le transport de ces ondes, nous les entendions très bien dans la cavité. À une certaine époque, en 95 je crois, nous avons constaté que sur le balisage que nous avions mis en place, un balisage à gauche et à droite limitant l'espace de progression, un bloc de plusieurs tonnes était tombé dessus, donc de manière très récente. Nous avons alerté les services de l'archéologie qui à l'époque ont pris certaines décisions et ont alerté la carrière pour faire à partir de ce moment-là des tirs non plus massifs mais des tirs séquentiels. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une onde, non plus d'un tir instantané sur toute la masse, sur tout le front de taille, mais d'un tir progressif, ce qui limite de beaucoup l'onde de choc. À l'heure actuelle, que se passe-t-il? Eh bien, la carrière a progressé, comme vous le dites, dans la montagne, et s'éloigne de plus en plus de la cavité. nous n'entendons plus le brise-roche, et les tirs sont effectivement beaucoup plus délicats, si l'on peut dire. Mais le service régional d'archéologie s'est rapproché de l'entreprise Lafarge, les a rencontrés. Nous les rencontrons aussi régulièrement en réunion au niveau du conseil départemental. Et l'entreprise Lafarge est entièrement d'accord pour respecter toutes les contraintes qui seront imposées par le service régional de l'archéologie. Et il y a un texte, un arrêté, qui est en voie d'être pris, qui va donc définir les contraintes d'exploitation correspondant exactement à ce que l'on souhaite au niveau archéologique. Donc les contacts sont pris, la carrière ne s'arrêtera pas, mais dans des conditions qui permettront la meilleure conservation possible du site.
Je vais rajouter une information. Il y a une entente entre les deux directions qui sont en charge de ce dossier, à savoir le ministère de la Culture pour le volet patrimonial et le ministère, alors je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais le l'ADREAL, la direction de l'environnement et de etc., qui s'occupe des autorisations de carrière. Et ces deux instances d'État se sont rapprochées pour imposer un cahier des charges aux carriers et qui a souscrit à ce cahier des charges. Et parallèlement, on a ouvert une procédure de classement du site au titre des monuments historiques qui va générer évidemment des contraintes pour le carrier, notamment sur la remise en état du site. Et apparemment, la poursuite des travaux sur le front de taille est suffisamment éloignée de l'actuelle emprise de la cavité pour ne pas la menacer. Voilà, le dossier en est là pour le moment, mais il y a un comité qui s'est emparé du dossier.
Vous avez laissé dans l'ombre une question qui n'est pas tranchée, et on comprend bien qu'elle ne puisse pas être tranchée, mais peut-être avez-vous quand même des indices pour nous dire quelle pouvait être l'utilisation de ce site.
En général, quand cette question est posée, on est là pour passer le micro. Non, mais on ne fuit pas la question. Juste une manière d'y répondre. Dans un premier temps, on a souhaité commencer par régler un certain nombre de questions préliminaires, à savoir revenir sur les structures et bien les décrire, puis les dater. Ça, c'est fait. Et donc maintenant, le chantier suivant, le vrai chantier, effectivement, c'est celui-là, la fonction du site et de ses structures. Donc nous ne fuyons pas cette question. Nous avons invité Brian Hayden, qui, lui, a des idées, avait déjà eu des idées, même en son temps. Donc, si vous voulez, on a convenu entre nous de commencer à lister des possibles. Alors, il y a des familles de fonctions possibles. Donc, il y a la famille Habitat. Dans la famille Habitat, on est à peu près tous d'accord pour écarter tout ce qui est structure d'habitat et le mettre de côté pour plein d'arguments. Après, il y a la famille économique. Les spéléos, quand ils ont découvert le site, ils ont parlé de barrage. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour barrer et empêcher l'eau de rentrer ou au contraire la retenir sous forme d'un bassin, une piscine paléolithique? Bon, je pense qu'on va refaire la une des journaux si on trouve des arguments pour démontrer ça. Mais Sophie, qui connaît bien cet environnement, elle a travaillé dans les régions où dans certaines populations, au Mexique, au Yémen ou dans les îles, font des espèces de réserves pour récupérer l'eau. Mais quand on fait des réserves pour récupérer l'eau, on fait des réserves qui sont en général assez modestes et très profondes et non pas très larges et peu épaisses. Donc ça, c'est plutôt un bassin qu'une réserve. Et donc le côté économique, réserve de matière ou stockage de l'eau a un petit peu été mis de côté lors de nos dernières discussions. Et donc en fait, la dernière grande famille, c'est tout ce qui est cultuel. Alors là, on est sur un terrain qui est évidemment très aventureux et qui est extrêmement difficile à argumenter d'un point de vue archéologique, parce que effectivement, c'est quand on a éliminé tous les autres qu'il ne reste pratiquement plus que ça, et on avance l'hypothèse de culte, un culte chthonien. On va dans les grottes pour initier des adolescents avec une structure et ça, c'est très intéressant. On a eu une discussion très intéressante avec Brian Hayden ce matin, et moi j'avoue que j'ai été en partie séduit par certains de ses arguments, j'avoue. Parce qu'il y a, il y a des éléments qui sont assez forts dans l'hypothèse du culte. Jean-Claude l'a également évoqué. Donc voilà, on a ouvert le dossier, mais on a commencé à tirer des fils, mais la réponse n'est pas encore acquise.
Je sais pas si j'ai... Bon, moi, je n'exclus toujours pas qu'ils récoltaient de l'argile ou de la calcite même, parce qu'il y a pas mal de planchers stalagmitiques perturbés. Alors, est-ce que c'est les ours? Est-ce que c'est l'homme? On ne retrouve pas toujours le morceau de plancher Le morceau de plancher manque, alors c'est pas l'ours qui est parti avec quand même. Enfin, donc il y a quand même pas mal de questions là, mais on n'exclut rien encore. Pour l'instant, on a aussi étudié que la zone des structures, mais par contre, il reste toute la grotte à faire. Et donc là, on commence à sortir des structures pour regarder la salle où il y a énormément de choses, mais après, il y a toute la grotte. Donc voilà.
C'était l'objet de ma question. Avez-vous la possibilité, les moyens de faire des recherches sur les traces humaines, c'est-à-dire squelettes, os, cheveux, je ne sais pas, enfants, femmes, hommes, ce qui permettrait de résoudre la question sur le pourquoi?
Oui, ben on n'a encore rien trouvé. Hein. Ouais, on ne désespère pas, mais enfin... D'abord, la grande partie de la structure, donc à l'intérieur de la structure, est complètement calcitée, donc on n'a pas accès au sol archéologique. Ça, c'est une première chose. Bon, à côté de ça, il y a effectivement de l'argile dans une grande partie de la salle, mais où on ne trouve pas, on n'a pas retrouvé d'os humain. Donc voilà. Après, ben, moi, ce qui m'intéressait également en tant que géologue, pour avoir une idée un peu du contexte karstologique, donc du contexte de la grotte, j'avais envie de savoir ce qu'il y avait sous cette structure. Et donc, c'est pour ça que, comme on ne peut pas y accéder, on ne va pas commencer à creuser dedans, il n'y a que des méthodes indirectes qu'on peut utiliser, donc ce qu'on appelle des méthodes géophysiques. Et donc là, cette semaine, avec Christian Burlet qui est là-bas derrière, on a fait des mesures sismiques. C'est-à-dire, on place un appareil sismique et il mesure le bruit ambiant. Et donc, on a dû évacuer la grotte de tous les chercheurs parce qu'il faisait trop de bruit et que ça perturbait les mesures. Et donc là, les premiers résultats montrent que sous cette structure, il y aurait quand même 3 à 4 mètres de sédiments. Mais c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant.
Jacques ? Oui, on peut dire un mot pour compléter. Dans d'autres sites, comme les grottes ornées, on fait ce travail de recherche systématique, c'est-à-dire qu'on prospecte mètre par mètre les cavités pour voir tous les indices de traces, de passages. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ichnologie, c'est la recherche des traces, des empreintes au sol, mais aussi des traces de frottement, des traces de marques colorées sur les parois, etc. À Bruniquel, on vous l'a dit, on est pour le moment, on s'est cantonné à la salle de la structure, mais on commence un petit peu à en sortir. Et dans ce genre de cavité, en général, il y a très très peu d'éléments. Et voilà, moi je travaille dans une grotte ornée qui fait 1,6 km, et on a en tout et pour tout 3 lames en silex, et à Chauvet, il y a quelques objets qui ont été déposés, parce que ce sont des sites un peu sanctuarisés où on va juste pour faire des marques ou des dessins ou des peintures. Alors à Bruniquel, ils sont venus construire quelque chose, mais il y a très peu d'autres éléments de la vie quotidienne. On n'a pas d'objets, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'ossements. Alors évidemment, encore moins d'ossements humains, mais on se donne tous les moyens pour essayer d'en découvrir des éléments. On va faire des sondages avec des paléogénéticiens pour voir s'il n'y a pas de l'ADN conservé dans les sédiments, parce que maintenant, ils arrivent à trouver de l'ADN dans les sédiments des niveaux archéologiques. Donc ça, on va faire ça avec l'équipe de Leipzig, probablement, et on va faire une prospection systématique pour identifier et cartographier toutes ces traces.
Je pense aussi à autre chose, c'est que la zone de balisage que nous nous sommes imposée ne nous permet pas de sortir facilement et d'aller vers les parois. Alors quand il y a de la calcite sur laquelle on peut marcher sans risque, ce n'est pas un gros problème. Et s'il y a de la calcite, on ne voit plus rien. Et après, il y a d'énormes zones argileuses qui s'étendent des fois jusqu'au fond de la salle. Et là, on distingue qu'il y a quelque chose, des empreintes. Alors l'ours est omniprésent, dont on voit qu'il est passé. Mais parmi tout ce que l'on suppose là-bas, on ne peut pas y aller. On s'impose de ne pas y aller. Il faudra avoir du matériel adapté. Ça se fera peut-être dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, on ne sait pas, pour aller voir ce qu'il y a plus loin. On distingue pour l'instant, on suit au bord de notre balisage et on essaie de repérer ce qu'il y a d'accessible visuellement.
Ce qu'il y a aussi, c'est que visiblement, l'ours est passé après l'homme. Et donc, il a piétiné pas mal. Donc, bon, on ne sait pas si un jour on va même retrouver même une empreinte d'homme. On espère, mais tout a été vraiment fort piétiné par les ours.
Est-ce que je peux poser une dernière question sur la publication que vous avez faite l'an dernier dans la revue Nature, donc une revue très fameuse dans le milieu scientifique. Est-ce que vous pouvez dire un mot
de la réception, quel a été l'accueil de la communauté scientifique à votre découverte de l'homme de Bruniquel?
Moi j'étais un peu anxieux à l'idée effectivement des retours. Est-ce que ça allait être critiqué, commenté? Quand on a soumis le papier, ça n'a pas été facile. Et l'éditeur nous a dit il y aura beaucoup de réactions. Et en fait, on a eu beaucoup de réactions positives, même immensément majoritairement positives. Oui, vraiment, 95% des échanges que j'ai eus avec des collègues préhistoriens que je connaissais, que je ne connaissais pas, c'était plutôt bravo, quelle découverte, magnifique, etc. Ah oui, ça c'est important. Il y a eu une ou deux voix discordantes. Il y a eu un commentaire ironique d'un collègue que je nommerai pas. Et il y a eu une voix discordante d'un collègue espagnol qui était un petit peu plus critique. Mais c'était une critique assez constructive, mais globalement, ça a été assez bien reçu par la communauté, toutes disciplines confondues. Et notre principal point de satisfaction, c'est de voir maintenant, dans des ouvrages généraux de Néandertal, une page entière sur Bruniquel. Donc c'est quelque chose d'acquis et qui est passé un peu dans l'encyclopédie. Et donc maintenant, voilà, les ouvrages généraux qui mentionnent Néandertal évoquent la grotte de Bruniquel. Donc ça, c'est un point de fierté. Hein, c'est de la vanité passagère. Mais après, on retombe sur Terre. Hein, mais...
Voilà, merci. Je pense que vous méritez qu'on s'occupe de vous maintenant.